Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood consacré aux tendances d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Katia Barillo, rédactrice en chef du Marais Mood, site d'information et de tendances, et
Sandrine Maggiani, Trend Director et Digital Content Editor.
Chaque dimanche, sur le temps d'une conversation entre amis, nous décryptons les tendances mode, beauté, bien-être, déco, food, etc.
Bref, les grands courants socioculturels qui influencent nos comportements et façonnent le monde et le mood moderne.
Bonne écoute. Bonjour Sandrine.
Hello Katia.
Alors, comment ça va aujourd'hui?
Très bien.
Bon, on va parler du pouvoir émotionnel de la couleur. Parce qu'on le sait, hein, les couleurs, ça reflète nos émotions. Et ça reflète les émotions dans le monde, partout. Mm-hmm. Hein, en mode, en beauté, en design, en lifestyle. La couleur est pour tous un jeu majeur qui révèle l'inconscient collectif et reflète l'époque. En plein questionnement sur l'avenir des industries et de nos modes de vie, les couleurs restent un vecteur de communication immédiat et puissant, un moyen d'exprimer les émotions, d'explorer et de cultiver la beauté dans toute sa diversité, de célébrer la personnalité et les choix de chacun. Tu es d'accord avec moi jusque-là?
Ah mais total. Aligné.
Du fait, on le sait, du bouleversement que nous venons de vivre, hein, on a passé 15 mois avec une pandémie qui est venue, est repartie, est revenue. Eh bien, est-ce que le rapport à la couleur a changé? Tu vas nous expliquer comment ça se traduit et puis quelles sont les tendances et quelles seront les couleurs qui nous feront envie dans le monde de demain.
Écoute, quelle ambition. Je vais parler de tout ça. Donc, on va dire, pour commencer, qu'il est clair que les couleurs sont au cœur de la création. Elles traduisent un état d'esprit sociétal autant qu'individuel, et leur pouvoir d'influence est tel qu'il modifie nos comportements, comme tu l'as dit, il libère la créativité intuitive et la polysensorialité. Wow. Il met tous les sens en éveil. Du moins, les couleurs mettent tous les sens en éveil. Donc, après la crise que nous sommes en train de traverser, puisqu'on n'en est pas complètement sorti, on constate que le choix des couleurs traduit deux grandes tendances duelles, donc vraiment en dualité, qui oscillent entre le besoin de réassurance et de simplicité et un regain d'énergie et de créativité que l'on va retrouver dans une attention particulière apportée aux textures et aux pigments.
Au fil des saisons et aujourd'hui encore plus, quelles évolutions observe-t-on dans l'usage des couleurs par les consommateurs et bien sûr les marques qui, elles, créent leurs collections par exemple? Dis-nous tout.
Alors, de manière générale, chaque couleur a son effet selon l'usage qu'on en fait. Mais après la grande traversée du Covid, on peut parler d'un retour aux couleurs qui évoque la sensation de bien-être.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Le calme, des couleurs qui évoquent la nature, donc évidemment des couleurs essentielles pour se sentir en confiance et rétablir un équilibre émotionnel.
Alors j'ai des exemples, hein, dans le Marais, il y a une nouvelle boutique qui est arrivée, elle est là depuis 3 semaines, elle s'appelle Tram, elle est pimpée de couleurs terracotta, tu sais, c'est une petite couleur qui fait du bien, qui
rappelle chaleureuse.
La terre, le toucher de la terre, la sensualité, et ça nous fait vraiment beaucoup de bien.
Oui, et justement en décoration par exemple, la couleur gère les dimensions, elle va changer l'espace, elle va influencer l'architecture et elle a aussi un rôle sur la lumière, le reflet, la réflexion de la lumière. Et du fait de nos nouvelles habitudes de vie, les tendances existantes comme le développement des espaces à vivre multitâches, par exemple, plus décloisonnés, vont s'accélérer et les couleurs vont devoir s'adapter, devenir moins segmentantes, s'adoucir. Par exemple, l'extension du choix des nuances, les camailleux, etc., et des associations va permettre aussi de mieux raconter une histoire. Une histoire, l'histoire des lieux, l'histoire des... justement, chez Tram, par exemple, tu dis qu'il y a beaucoup de terracotta, donc ça nous rappelle la terre. Il y a des couleurs aussi assez accueillantes. Je me souviens des roses, des roses.
Un rose poudré, un vieux rose, très agréable. D'ailleurs, il est ce rose dans un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir rue Comines. Ça s'appelle Suki. Ça date d'il y a une semaine à peine.
Ah ouais.
Il y a beaucoup un très, très joli rose. Et d'ailleurs, chez Rupture, le disquaire, qui est installé rue du Verbois, qui lui aussi est arrivé avec le premier confinement. Mmh. Il y a un très joli rose poudré, assez inattendu dans un endroit un peu testéronné. Hein.
Ouais, ben justement aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit hein, dans les magazines, les tutoriels, ils nous apprennent à travailler la couleur. Ils nous apprennent à donner, par exemple, de la profondeur à une pièce ou l'adoucir en peignant un mur en couleur soit très très douce, soit hyper dense, pour développer de manière plus sensuelle et sensorielle aussi l'espace. Et on voit d'ailleurs le développement impressionnant de gammes de peintures chez tous les distributeurs, du plus populaire au plus élitiste.
Hein. Ah oui, on en a des pas mal hein, dans le Marais.
Oui,
on a Empreinte
qui est magnifique.
C'est très très beau. Et puis il y a cette fameuse marque anglo-saxonne qui
est extraordinaire, Farrell and Bow,
qui est rue Turenne
et
qui est assez impressionnant parce que ce sont ces marques-là qui ont en fait développé ces couleurs un peu extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Alors, je me demandais en introduction si le rapport à la couleur va changer avec ce temps passé justement à la maison. Et si oui, comment ça va se produire ?
Comme je te le disais aussi en intro, là je vais étoffer certainement un petit peu. Les conséquences post-Covid ont engendré cette envie de calme, de douceur, d'authenticité aussi. Et une majorité de consommateurs va sans doute s'appuyer sur des valeurs refuge. Les valeurs refuges, ça veut dire quoi en matière de couleurs ? Ça veut dire des couleurs naturelles, des sables, des écrus, mais aussi des blancs avec une touche colorée, qui seront très présents. On verra aussi des couleurs plus minérales, comme le gris, les boisés, qui seront pérennisées, puisqu'on les voit, mais là, elles seront vraiment un petit peu dans tous les intérieurs. On l'a évoqué avec le rose, les pastels doux, mélangés à des neutres, qui justement nous amène dans une zone de confort. Et le rose dont tu parles, c'est une couleur qu'on dit oubliée, parce que ce sont des couleurs, des roses poudrées, et qui réaffirme son retour justement à l'hôtel, comme dans tous les lieux sophistiqués, mais aussi dans les espaces à vivre et évidemment dans la mode.
Dans la mode, en face du marché des enfants rouges, il y a un petit artisan qui fait des sacs, des pochettes très très belles.
Ouais.
Est-ce que tu as vu ?
Ouais.
Il a mis sur son étal des sacs, des pochettes en couleur pastel. C'est très très beau. Hein.
Ouais, c'est justement c'est ce dont on a envie. Et puis c'est à la fois rafraîchissant et réconfortant. Autre changement, enfin changement amorcé et là pérennisé, c'est la durabilité. Donc la durabilité, ça se traduit en couleur par la résurgence des tons naturels qui se confondent avec la terre, tu vois, on parlait de terracotta tout à l'heure, mais aussi les bruns très très foncés. On parlait du konjac, n'importe quoi, ça c'est pour les naturels. un peu la fève de cacao, voilà,
oui.
Fève de cacao qui vont contraster avec des éclats de couleurs et qui permettront aux marques justement de contribuer à une colorimétrie qui en fait apporte du confort, le confort de la maison.
Ouais, ce sentiment de rassurance,
ouais.
Là, de réassurance.
Réassurance, de sécurité. Et bon, pour moi, je dirais que le changement de comportement en matière de couleur, il ne peut pas être radical. En revanche, il va être plutôt dans l'attitude, c'est-à-dire il va venir d'une prise de conscience écologique qui encourage les consommateurs à vouloir connaître l'origine de la fabrication des couleurs, demander au moins de traitements chimiques possibles et aussi avec beaucoup plus, je dirais, le développement de la teinture végétale, par exemple.
Oui, bien sûr, la chaux.
Par exemple, oui.
Alors, quel est le pouvoir prescripteur de Pantone, le fameux Pantone qui, un jour, dans les années 80, est passé de marque pour les professionnels. Maintenant, on sait, nous, le grand public, que ça existe.
Ouais.
C'est un fournisseur américain de nuanciers de couleurs pour les professionnels qui élit chaque année, depuis combien de temps maintenant,
depuis quelques années, là,
la couleur de l'année, voire les couleurs, non.
La couleur de l'année. C'est la couleur de l'année.
Mmh.
Et oui, alors Pantone, évidemment, balance une couleur que l'on va retrouver dans tous les magazines. Alors moi, ça me fait bien sourire parce que c'est pas forcément pour ça que la couleur aura du succès, même si on essaye de l'imposer.
Mais c'est qui on?
On, c'est les médias, c'est bah justement les magazines, sur Internet, sur après tu as des influenceurs, tu as sur Insta,
Oui,
qui
parce qu'on
des
nous a dit que
suiveurs en
c'était la
fait.
couleur, on se dit,
Voilà.
on la voit partout, on la
Exactement.
cherche partout et on la sublime
C'est
partout.
ça, et en fait ce sont souvent des suiveurs, des early suiveurs qui vont l'imposer sur leur compte Insta, etc., sans même réfléchir forcément à est-ce que j'aime ou pas. Donc, en fait, le soufflet peut très vite retomber si justement les consommateurs ou les marques ne sont pas d'accord avec la couleur.
Ben oui, je me
Comme le...
rappelle, il y a eu une couleur, l'ultraviolet,
Oui.
qui était censée être la couleur de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Gros flop. Gros flop parce que justement, ils ne sont pas... En fait, ils n'ont... Ok, ils ont un outil super performant, mais il ne l'est pas forcément assez pour mesurer le succès émotionnel. On parle d'émotion de la couleur, émotionnelle d'une couleur qui doit remporter l'adhésion de la majorité des consommateurs et qui en plus, et ça ils ne l'ont pas forcément anticipé, ne peut s'appliquer à tous les supports.
Bien sûr.
Donc, Pantone, il leur reste encore de la marge pour rattraper les bureaux de style qui, eux, sont souvent spécialistes de la création de gamme de couleurs, mais aussi pas seulement créer une gamme, mais l'appliquer à tous les domaines, que ce soit la mode, le packaging, la beauté ou l'automobile.
On a l'impression que Pantone, c'est un peu au doigt mouillé.
Non, non, non,
Non?
parce qu'ils ont pas mal d'outils, justement, dont la data, mais ce ne sont pas les meilleurs prescripteurs pour autant, en tout cas les plus
D'accord.
influents.
Depuis que nous avons apporté des masques, et d'ailleurs nous continuons à en porter encore, la couleur semble devenir le révélateur de notre personnalité, de notre état d'esprit. Est-ce que d'après toi, cette tendance va se pérenniser? Je vais tout de suite essayer de tenter une
Ouais, mais
réponse
vas-y,
parce
vas-y.
qu'on pense à Mademoiselle Gorman qui, lorsque Biden est arrivé au pouvoir, cette jeune poétesse Amanda Gorman est arrivée devant le public mondial et
Ouais.
elle était avec un manteau jaune. Ça nous a beaucoup surpris, c'est assez rare, les couleurs, surtout dans un moment aussi fort et aussi officiel.
Oui, et c'est justement pour ça qu'elle a révélé son état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait à ce moment-là. Et effectivement, le jaune, là, en l'occurrence, c'est la couleur de l'espoir, la couleur du soleil, c'est... Enfin, on pourrait rentrer dans les détails. Mais pour répondre à ta question, justement, choisir une couleur, c'est exprimer un vrai message personnel. Et là, en l'occurrence, elle avait envie de briller. Shine. Et voilà quoi. Jaune, hein.
Et ce fut fait.
Et ce fut fait. Et on sait que la couleur a toujours contribué à affirmer une personnalité. Et évidemment, ce mouvement va s'accentuer. Surtout avec les nouvelles générations, j'en parle beaucoup, mais les Gen Z qui sont beaucoup plus assertifs que nous. En plus, on est vraiment conscient que l'habit a perdu sa fonction d'identificateur social, puisqu'aujourd'hui tout est possible et tout est mélange, et puis aussi au profit du confort hein, que l'on a, qui va se pérenniser à ce niveau-là depuis qu'on est en homeware
En
du soir au
permanent.
matin, dehors, dedans. Donc ce sera le rôle de la couleur de traduire un état d'esprit, un désir de distinction ou au contraire un besoin d'invisibilité plus radical. Donc créer de nouvelles identités culturelles et des hybridations inédites, comme faire usage des monochromes, par exemple. On voit de plus en plus de silhouettes monochromes de couleurs très très fortes qui renforcent le sentiment de détermination et de prise de
Prise de
risque.
risque, ah ouais. Alors par exemple, en matière de prise de risque, on peut imaginer une palette de pastels printaniers traditionnels. Qu'est-ce que tu en penses? Du jaune à la lavande, en passant par le rose ou alors le bleu layette. Enfin, ça va pas à tout le monde, ça, non?
Ça peut marcher en monochrome en fait, ou en polychromie qui va exprimer, surtout chez les jeunes qui s'en fichent en fait un petit peu de savoir si ça leur va bien au teint, pardon. Eux, ils essayent d'exprimer une vivacité dans les nuances qui va justement se situer entre le tonique et qu'ils vont adoucir avec quelque chose de neutre, tu vois, ou alors des tons chauds comme le rose. qu'on évoquait tout à l'heure, ou le terracotta, ou même le chamois, qui vont renforcer l'intensité des pastels dont tu parles.
Alors, en parlant d'intensité, est-ce que nous aurons besoin de couleurs saturées, contrastées et expressives, ou au contraire de gammes qui relèvent d'un désir de sobriété, voire d'essentialité, comme tu dirais?
Alors là, deux tendances, hein, tu sais, c'est toujours le pendant et son contraire. Donc deux tendances existent et peuvent s'associer, voire se confronter. On verra aussi bien les teintes en camailleux, plus subtiles, plus en harmonie, sorte de polychromie de coloris qui annonce une manière plus sophistiquée d'approcher et d'associer les couleurs, et qui justement sont quand même inattendues, comme tu parlais de cet hôtel, comment s'appelle-t-il déjà ?
Suki.
Suki. Justement, je suis très curieuse d'aller voir ce qu'ils font en matière de couleurs et en matière de mode, hein, mais ça c'est dans tous les domaines, ça s'applique évidemment à la déco, à la mode, à la beauté, que des couleurs fortes et contrastées qui, elles, libèrent de nouvelles énergies dans tous les domaines là encore, et le rapport matière-couleur qui est déjà présent chez la jeune génération et qui nous dit qu'on peut tout oser, tu vois. Et donc, par exemple, dans les collections de mode, la couleur sera plus saturée, même en matière de design et de déco d'ailleurs, hein, avec des contrastes audacieux ou au contraire plus authentiques qui vont vers la minéralité, vers l'éther. J'ai parlé du brun, des couleurs du brun, mais qu'on va nuancer avec des bleus verts, des roses oranges ou des blancs écrus. Tu vois, on va travailler plus sur ce genre de contraste.
C'est le besoin d'écologie, en fait, là, qu'on révèle ainsi.
Aussi, besoin d'écologie et puis besoin d'un rapport à la couleur plus local, avec des nuances inhabituelles qui justement, laissent présager une façon plus souple de créer des couleurs.
Ça me rappelle cette marque délicieuse qui était rue Charlot, bleu de cocagne.
Ah oui.
Où tout était dans ce fameux bleu de cocagne, un bleu indigo et qui se mêlait, qui était plus ou moins intense.
Oui, et justement, lui travaillait la souplesse des couleurs en travaillant beaucoup sur la nuance et les effets de nuance et les effets aussi complètement inattendus du rendu de la teinture naturelle. Donc ça, c'était assez beau.
Bon, et en beauté, quelles sont les tendances couleurs qui émergent? Est-ce qu'elles sont inclusives, expressives, inattendues? Puisque tu dis que les couleurs imitent l'imprévisibilité du monde, encore incertain.
Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment des tendances fortes qui montrent un petit peu que, en fait, il y a une forme de mimétisme. C'est-à-dire qu'on va, on oscille. Donc en mode, en déco, en design, en lifestyle et en beauté, on constate un regain d'intérêt pour justement les ingrédients, on parlait de bleu de cocagne à l'instant, les ingrédients naturels, les pigments organiques avec des palettes qui reflètent un nouveau sentiment d'optimisme et d'espoir. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'intensifier avec les saisons jusqu'en 2023, assez fortement, et plus encore qu'en mode, le choix des couleurs en beauté reflète les changements d'état émotionnel. C'est à travers la beauté que les couleurs reflètent nos émotions encore plus fortement. Donc on va retrouver des choix de couleurs réparatrices, équilibrantes, qui diffusent des énergies positives sur la santé physique et mentale. On va avoir beaucoup de halos lumineux autour des yeux, par exemple, voire des couleurs très très fortes, comme des bleus électriques, des lavandes, des verts sur les paupières, très très pigmentés aussi. Et puis, on verra des couleurs, justement, qui ont cet effet positif, ne serait-ce qu'en regardant quelqu'un. Il y a un éclat comme ça de positivité en regardant leurs yeux ou leur visage et qui font un petit peu écho à notre, je dirais, sur la santé physique et mentale que l'on sait encore assez fragilisée, surtout chez les jeunes générations.
Absolument, on a vu hein, que tout cet enfermement avait causé beaucoup de tracas aux jeunes et à plein de gens qui, pour des raisons X ou Y, ont des moments de fragilité. Et puis donc, la couleur va nous apporter ce bien-être.
Oui, et en contraste, justement, tu vois, on parlait de santé pour donner ce glow au visage pour nous donner le rose aux joues, le côté un peu pimpant aussi, le côté en bonne santé, on va aller vers des couleurs naturelles et végétales qui deviendront super importantes. Et les neutres, revenir aux neutres qui seront loin justement d'être un standard, tu vois, c'est pas... Au contraire, elles vont s'illuminer en associant des effets de texture, de brillance, d'accumulation. Et puis, tu sembles y tenir, toujours ce rose.
J'adore mais, le rose.
Ouais, moi aussi. Mais ici, plus framboise, plus gourmand, tu vois, super important. Et autre tendance très, très forte, alors là aussi, on dit que ça ne va pas du tout au teint, c'est ce... mais on s'en fiche complètement. c'est ce lavande. Le lavande glacé qui va contraster avec des couleurs vives et organiques. Et puis, on parlait tout à l'heure, avant d'enregistrer, du vert.
Oui, du vert amande qui est justement sur la façade de ce fameux hôtel Suki. Hein. Il est là depuis une semaine seulement. Et c'est vrai que c'est très joli. C'est assez rare de voir des enseignes comme ça avec ces couleurs, avec le duveteux de l'amande qui nous rappelle ça en tout cas. Et puis, il y a un autre restaurant qui, lui, est là depuis un mois, qui est du côté du 3e arrondissement vers... la rue des Gravilliers.
Ouais.
Et là, c'est un restaurant traditionnel. Puis ils ont choisi un verre bouteille, un verre plus traditionnel. Donc, on comprend tout de suite qu'on est dans un autre mood.
Oui, tout à fait. C'est ça. Bah, justement, tu vois, tu termines bien le podcast parce que c'est ça. En fait, selon le lieu dans lequel on va, la couleur, en fait, reflète le mood, reflète le style, le mood du moment. Et comme on est amené, on a envie d'être dehors, on a envie de changer de mood très très facilement, là, en l'occurrence, avec les couleurs, avec le visual merchandising, avec le packaging, c'est le reflet du mood du moment.
C'est génial.
Ouais.
Alors, si on veut échapper au dictat des couleurs, j'ai la solution. Tu m'as donné cette référence qui est vraiment... incroyable, c'est celle de Michel Pastoureau qui est historien, expert des couleurs.
Ouais.
Et dans son petit livre des couleurs, il dit « Et maintenant que la couleur est omniprésente, c'est le noir et blanc qui devient révolutionnaire. » Donc porter le noir et du noir reviendrait à réconcilier la valeur sûre, les valeurs sûres et l'avant-gardisme, c'est ça ?
C'est ça. Alors, le noir et le blanc qui ne sont pas considérés comme des couleurs, effectivement. Donc là, on n'est plus dans un dictat, sauf que c'est très dogmatique, le noir et le blanc.
Oui, en mode surtout. Hein.
En mode, mais aussi en intérieur, c'est très, très radical. Mais il est vrai qu'en mode, on le retrouve énormément et on n'en a pas fini avec les damiers noir et blanc, avec le noir monochrome. On revient aux années 90 aussi, et puis le côté un petit peu radical dans la silhouette, un peu à la Rei Kawakubo par exemple pour Comme des garçons qu'on connaît bien, ou un Helmut Lang, c'est des références des années 90 que l'on aura toujours, ou un Prada, mais qui ne traduit pas grand chose de soi en fait, pas forcément. Et moi je suis plutôt pour l'impulsion vitale et régénératrice de la couleur.
J'adore.
Ben
ça
voilà.
Devrait être une baseline, ça.
Ben écoute, prenons-la.
La radicalité des couleurs. Bon, ben sur ces mots, on se retrouve la semaine prochaine.
Comme d'hab.
Ciao.
Ciao.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.
À mettre un commentaire ou 5 étoiles.
À suivre Le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story.
À découvrir les autres épisodes déjà en ligne.
À parler de moderne autour de vous.
Un grand merci.
Katia Barillo et
Sandrine Maggiani,
fondatrice du podcast Moderne.